Vous aviez mis tellement d'espoir dans ce projet. Vous vous étiez pleinement investi, croyant que c'était la volonté de Dieu. Beaucoup de temps, beaucoup de travail, peut-être beaucoup d'argent. Et puis, c'est l'échec, l'échec. Tout ce que vous avez essayé de construire s'effondre, et c'est comme si tous vos efforts, en fin de compte, n'avaient servi à rien. Qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur? Ou bien vous venez de perdre quelque chose qui vous était très précieux et vous l'avez perdu indépendamment de votre volonté. Peut-être un objet qui vous était précieux, une personne, une situation professionnelle ou une autre situation. Une perte soudaine, injustifiée, qui change du jour au lendemain l'équilibre de votre vie. Qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur? Ou bien vous traversez simplement une période où les difficultés s'accumulent. Difficultés à boucler la fin du mois, problèmes de santé, tensions familiales. Votre vie ressemble à une lutte constante. Vous essayez tant bien que mal de tenir debout et d'avancer contre le courant. Qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur? Je suis sûr que nous avons tous connu de telles situations. Et peut-être même que vous êtes ce matin dans une situation semblable. Et qu'est-ce que ces situations difficiles nous font à l'intérieur? Quel est leur impact sur nous? Quelles séquelles ces épreuves provoquent-elles au niveau de nos émotions, au niveau de notre perception du monde qui nous entoure, au niveau de notre relation avec les autres et même au niveau de notre relation avec Dieu? Quelles séquelles ces épreuves provoquent-elles? Et ces questions, je crois, sont directement liées avec le sujet que va soulever le texte que nous sommes sur le point de lire. Parce que c'est généralement dans l'adversité que notre orgueil se manifeste le plus clairement. C'est généralement dans l'adversité que notre orgueil se manifeste le plus clairement. En d'autres mots, c'est quand les choses vont mal que notre orgueil remonte à la surface. C'est quand les choses vont mal que notre orgueil remonte à la surface. Et ce texte a précisément pour but, on va le voir ce matin, de nous rendre sensibles au piège terrible que constitue pour chacun de nous notre orgueil. Gare à l'orgueil, nous dit Dieu dans ce texte. Pourquoi? Parce que notre orgueil nous fait du mal à nous-mêmes, parce que notre orgueil nuit à notre relation avec les autres, et surtout parce que notre orgueil porte gravement atteinte à la grâce même de Dieu. Alors lisons le texte, c'est Amos chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'à la fin du chapitre. Le Seigneur l'Éternel l'a juré par lui-même. Oracle de l'Éternel, le Dieu des armées, j'ai en horreur l'orgueil de Jacob et je hais ses donjons. Je livrerai toute ville et ce qu'elle renferme. Et s'il reste 10 hommes dans une maison, ils mourront. Lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler et qu'il enlèvera de la maison les ossements, il dira à celui qui est au fond de la maison, « Y a-t-il encore quelqu'un avec toi ?» Et cet homme répondra, « Personne. » Et l'autre dira, « Silence, car il ne faut pas évoquer le nom de l'Éternel. » Car voici que l'Éternel donne des ordres. Il fera tomber en ruine la grande maison et en débris la petite maison. Est-ce que les chevaux courent sur la rocaille? Est-ce qu'on y laboure avec des bœufs pour que vous ayez changé le droit en poison et le fruit de la justice en absinthe? Vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant. Vous dites, n'est-ce pas par notre force que nous avons acquis de la puissance? C'est pourquoi, voici que je serai levé contre vous, maison d'Israël, oracle de l'Éternel, le Dieu des armées, une nation qui vous opprimera depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent de la Araba. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous savons que c'est ton Esprit Saint qui a inspiré Amos à écrire ces paroles. Tu les as préservées tout au long des siècles. Et nous voici aujourd'hui à vouloir les étudier pour savoir ce que toi, Dieu Tout-Puissant, tu attends de nous. Veuille, par le même esprit, nous éclairer maintenant et nous conduire dans la méditation de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Dieu veut nous rendre sensibles au piège terrible que constitue pour nous notre orgueil. Et la première chose qu'on voit dans ce texte, qu'est-ce que c'est ? C'est précisément Dieu qui dénonce l'orgueil de son peuple avec un langage très fort. Il l'a juré par lui-même, « Oracle de l'Éternel, le Dieu des armées, j'ai en horreur l'orgueil de Jacob. » Dieu jure par lui-même qu'il va intervenir contre son peuple et lui infliger un châtiment qui vous a peut-être choqué parce que ce châtiment est tout à fait radical. S'il reste 10 personnes dans une maison, elles mourront. Pourquoi un châtiment si sévère ? Eh bien parce que sous la correction divine, qu'est-ce qu'on découvre dans le verset 10 ? Sous la correction divine, le peuple ne va pas s'humilier et se repentir, mais au contraire, à cause de son orgueil, le peuple va s'endurcir et devenir de plus en plus amer. La première affirmation de ce texte, c'est que dans l'adversité, l'orgueil mène à l'amertume. Dans l'adversité, l'orgueil mène à l'amertume. En 1994, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la patineuse française très connue, Surya Bonaly, était persuadée qu'elle remporterait la médaille d'or au championnat du monde de patinage artistique en 1994. Okay. Vous n'êtes peut-être pas. Ses principales concurrentes étaient absentes. Et donc, Surya Bonaly était très sûre de sa supériorité technique par rapport à toutes les autres, toutes celles qui restaient. Et puis, lorsqu'elle a découvert, à l'issue de la compétition, qu'elle n'était classée que deuxième, derrière une patineuse japonaise dont personne n'avait entendu parler jusqu'alors, Surya Bonaly a fait un scandale. Elle a refusé de monter sur le podium, accusant certains juges d'avoir été partiaux et racistes. Vous voyez que dans l'adversité, l'orgueil mène à l'amertume. Et quel effet l'adversité a-t-elle sur nous ? Ce n'est pas facile d'accepter les épreuves comme des moyens par lesquels Dieu veut éprouver notre foi, comme le dit l'apôtre Pierre dans sa première épître. Dieu veut éprouver notre foi à travers les épreuves afin de la rendre plus forte, afin de la rendre plus précieuse que de l'or. Ce n'est pas facile d'accepter ça. Ce n'est pas facile parce qu'on est beaucoup plus enclin à protester et à trouver injuste la difficulté et à faire des reproches aux autres quand l'adversité nous touche, voire même à faire des reproches à Dieu. Et c'est exactement l'attitude de ces gens dans le texte là, verset 11, qui sont en train de subir la correction divine. Ils sont en plein milieu de l'adversité, les gens meurent et ces gens-là font la tête, ils boudent, ils sont amer, silence. Il ne faut pas évoquer le nom de l'Éternel plutôt que de se repentir et d'être contrit. Ce n'est pas facile d'accepter les épreuves comme ces moyens-là par lesquels Dieu veut éprouver notre foi parce que nous sommes orgueilleux. Et les orgueilleux résistent à Dieu. Dans un premier temps, donc, ce texte nous invite à porter un regard lucide sur notre orgueil, qui dans l'adversité nous mène à l'amertume. Êtes-vous amer ce matin ? Êtes-vous amer ce matin à cause d'un échec ? Ou à cause de quelque chose qui vous a été enlevé ? Ou à cause d'une vie en général qui vous paraît injuste, tout simplement ? Est-ce que vous êtes amer ce matin ? Est-ce que vous êtes incapable d'accepter avec humilité et avec contrition le raffinage de votre vie et de votre foi que Dieu opère dans sa souveraineté ? Si vous n'en êtes pas capable, comme moi, je n'en suis pas capable, c'est à cause de notre orgueil. Notre orgueil nous fait du mal. Mais regardons la suite pour en savoir un peu plus. À partir du verset 11, versets 11 et 12. La deuxième chose qu'on voit dans ce texte, on voit Dieu qui prononce une sentence contre son peuple orgueilleux et qui ensuite va donner l'explication de cette sentence. Alors la sentence c'est quoi ? C'est que la grande maison comme la petite maison seront détruites. Ce qui signifie que les puissants, les riches, du peuple n'ont pas le monopole de l'orgueil. Ce ne sont pas que les grandes maisons qui vont subir la destruction que Dieu va provoquer. Tous seront châtiés sans discrimination. Et l'explication de cette sentence, c'est que l'orgueil, c'est effectivement un problème généralisé. C'est un problème généralisé, c'est la racine d'une injustice qui contamine toute la vie. La deuxième leçon de ce texte, donc, c'est que l'orgueil est d'autant plus grave que c'est un mal profond. L'orgueil est d'autant plus grave que c'est un mal profond. Vous vous dites peut-être ce matin que cette prédication ne vous concerne pas vraiment, parce que vous n'avez pas dans votre vie beaucoup de raisons d'être orgueilleux. Hein ? Vous n'êtes pas riche, vous n'êtes pas connu, vous n'êtes pas talentueux, vous n'êtes pas beau. Mais dans ce texte, les indigents sont aussi la cible du jugement de Dieu qui s'abat sur les Israélites à cause de leur orgueil. Parce que le problème de l'orgueil, c'est qu'il contamine la vie à quelque échelle que ce soit. C'est comme si je vous présentais deux gâteaux et je vous disais, dans ce gâteau, j'ai mis un peu d'arsenic. Puis dans ce gâteau, j'ai mis beaucoup d'arsenic. Vous préférez manger lequel ? Ni l'un, ni l'autre, bien sûr. De la même façon, l'orgueil gâche la vie à quelque échelle que ce soit. Qu'est-ce qui est le moins grave ? Voler des bijoux à un millionnaire ou voler des bonbons à un enfant ? Qu'est-ce qui est le moins grave ? Rouler à 140 quand c'est limité à 110 ou rouler à 80 quand c'est limité à 50 ? Ce n'est pas l'échelle qui importe, mais c'est l'offense en elle-même qui importe. Et à quelque échelle que ce soit, d'après ce texte, changer le droit en poison, à quelque échelle que ce soit, c'est chose détestable aux yeux de Dieu. Changer le fruit de l'absinthe, le fruit de la justice, en absinthe, à quelque échelle que ce soit, c'est chose détestable aux yeux de Dieu. Qu'il y ait un peu d'arsenic ou beaucoup d'arsenic dans le gâteau, c'est chose détestable aux yeux de Dieu. Que les chevaux courent sur la rocaille, comme dit le prophète, ou qu'on y laboure avec des bœufs, c'est la même perversion. Ça ne se fait pas. C'est une offense. L'orgueil vous concerne donc, mes amis, comme il me concerne, parce qu'il concerne tout le monde. Même si vous ne pensez pas avoir beaucoup de raisons dans votre vie d'être orgueilleux. Et à quelque échelle que ce soit, notre orgueil nous gâche la vie. Elle gâche votre vie comme elle gâche la vie de votre entourage. Vous voyez que l'orgueil est d'autant plus grave que c'est un mal profond. C'est un mal profond. C'est un mal répandu et profond. Êtes-vous prêt à identifier ce mal dans votre propre vie ? Êtes-vous prêt à appeler un chat un chat ? Mais regardons la suite parce qu'il y a plus grave encore. Dans les versets 13 et 14. Et la troisième et dernière chose que l'on voit dans ce texte, c'est Dieu qui donne une réponse spécifique à l'orgueil des Israélites par rapport à la situation particulière dans laquelle ils sont à ce moment précis de leur histoire. Sous le règne du roi de l'époque, j'explique un petit peu le contexte, sous le règne du roi de l'époque, peu de temps avant le ministère du prophète Amos, le royaume d'Israël avait pu, par la seule grâce de Dieu, rétablir ses frontières et les fortifier au nord comme au sud. Au nord, depuis l'entrée de Hamath, jusqu'au sud, au torrent de la Araba. Lisons rapidement ce qui est dit à ce sujet dans le deuxième livre des Rois, chapitre 14, à partir du verset 25. Le roi Jéroboam rétablit la frontière d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la Araba, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Jonas, fils d'Amittai de Gath-Hépher. Car l'Éternel avait vu la très cruelle humiliation d'Israël. Il n'y avait plus personne qu'on retienne et plus personne qu'on relâche. Nul ne venait au secours d'Israël. Or l'Éternel n'avait point parlé d'effacer le nom d'Israël de sous le ciel. Il les sauva par la main de Jéroboam, fils de Joas. Ce qui est remarquable dans ce texte, mes amis, c'est que Dieu décide de sauver son peuple par la main d'un roi qui est profondément mauvais. Profondément mauvais. Mais le texte ne laisse aucune ambiguïté. C'est Dieu qui intervient par pure grâce, selon son plan, souverainement, selon sa promesse vis-à-vis de son peuple. Il intervient pour que le peuple d'Israël connaisse une certaine réussite militaire pour rétablir et renforcer, fortifier ses frontières au nord, l'entrée de Hamath, jusqu'au sud, la mer de la Araba. Or, le peuple, nous dit Amos, s'est glorifié lui-même de cet exploit plutôt que de reconnaître la puissance et la bonté de Dieu. C'est ce qu'il dit. Vous dites, n'est-ce pas par notre force que nous avons acquis de la puissance? C'est pourquoi Dieu va maintenant manifester sa souveraineté et défendre ses prérogatives en retirant ce qu'il avait donné. Vous avez noté qu'il allait leur envoyer une nation qui les opprimerait précisément du nord au sud, de l'entrée de Hamath jusqu'au torrent de la Araba. La troisième leçon de ce texte, c'est que l'orgueil est une insulte à Dieu, car l'orgueil porte atteinte à la grâce même de Dieu. En tant que parent, je suis parent depuis bientôt 8 ans, en tant que parent, il y a une chose qui me dérange. C'est lorsqu'un de mes enfants refuse de prêter à son frère un jouet dont je lui ai fait cadeau. L'enfant en question revendique la propriété du jouet comme s'il l'avait acheté ou construit lui-même. Et devant ce genre d'égoïsme, je leur dis souvent, attends une minute, d'où il vient ce jouet? Qui l'a acheté ce jouet? N'oublie pas que je peux reprendre ce jouet et le donner à quelqu'un d'autre si je veux. Et de la même façon, dans le texte, Dieu défend ses prérogatives face à l'orgueil de son peuple en leur retirant ce qu'il leur avait donné. Est-ce que nous ne sommes pas tous ici présents ce matin enclins à oublier qui est l'auteur de tous les bienfaits dont nous profitons au quotidien? Est-ce que nous ne sommes pas enclins à l'oublier ça? Si j'ai à manger sur ma table, mais c'est grâce à Dieu. Si j'ai de quoi me vêtir, mais c'est grâce à Dieu. Si même j'ai un travail qui me rapporte de l'argent, ce n'est pas parce que je le mérite, c'est grâce à Dieu. Si je respire, c'est grâce à Dieu. Et Dieu peut très bien, s'il le décide, me retirer tout cela en un instant. Qu'est-ce qui nous fait oublier la source de tous ces bienfaits, sinon notre orgueil? Vous voyez que notre orgueil est une insulte à Dieu, parce que notre orgueil porte atteinte à la grâce même de Dieu. Et si nous ne réalisons pas que si nous sommes vivants, ce n'est pas parce que nous le méritons, mais seulement parce que Dieu le veut bien, alors nous sous-estimerons aussi ce que Dieu a accompli de plus grandiose et de plus précieux pour nous, le pardon de nos péchés. Dieu a envoyé dans le monde son Fils unique, Jésus-Christ, porté à notre place sur la croix le poids de nos fautes, le poids de nos péchés. Et il ne l'a pas fait parce que nous le méritions. Il l'a fait, au contraire, parce que nous ne le méritions pas. Et justement, parce que nous en avions par conséquent désespérément besoin, il l'a fait par amour pour nous, par pure grâce. Ainsi, tous ceux qui se confient en Jésus pour le pardon de leurs péchés reçoivent l'assurance d'être réconciliés avec Dieu pour l'éternité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure, sinon que le remède à l'orgueil, d'après ce texte, ce n'est pas à proprement parler l'humilité. Le remède à l'orgueil d'après ce texte, c'est la reconnaissance. Le remède à l'orgueil, c'est la reconnaissance. Comme le dit l'apôtre, que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Colossiens 3, verset 15. Quand on considère tout ce que Dieu a fait pour nous, quand on considère tout ce qu'il continue de faire pour nous à chaque instant de la journée, et quand on vit par conséquent dans la reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, alors que nous ne le méritons pas, eh bien alors, peut-être éviterons-nous de tomber dans l'amertume, quand vient l'adversité. Peut-être éviterons-nous d'empoisonner notre propre vie et celle des autres. Peut-être apprécierons-nous un peu plus chaque jour la grâce de Dieu à notre égard. Gare à l'orgueil, nous a dit Dieu à travers ce texte ce matin. Et je vous invite à suivre le précieux conseil de ce cantique bien connu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Amen.